Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Riding in my car, and I'm listening to the radio.
The alternative radio station, 96.9.
Tout le monde sait que lorsqu'il est question de parler d'immobilier, ça peut devenir compliqué assez vite. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses satisfaisantes. C'est exactement pour ça que c'est toujours mieux de s'adresser à un expert ou encore d'écouter la Bulle immobilière au 96.9 L'Alternative Radio avec votre animateur Jean-François Morin et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine à l'émission, on reçoit des experts et on jase de divers sujets pour vous tenir bien informés sur tout ce qui touche l'univers de l'immobilier. La Bulle immobilière, tous les samedis de 16 à 18h.
À CJMD 96.9, l'Alternative Radio.
96.9,
l'Alternative Radiophonique.
La Bulle immobilière. La Bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff
Morin. Courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase.
Des questions.
Des réponses.
Pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La Bulle immobilière.
Bienvenue à la Bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et j'ai l'honneur d'animer une émission radio spécialisée sur l'immobilier, toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
Ça va bien, d'habitude, je te dis toujours top shape, Jeff, mais là, écoute, c'est début décembre, un petit peu en deux mai. Fait que ceux qui nous réécoutent cet été en podcast, là, ajustez pas votre, votre appareil.
C'est
normal.
C'est la voix grippée un peu
ça,
de Kevin.
C'est ça.
Écoute, les fêtes arrivent, on a beaucoup de projets qui s'en viennent. C'est souvent une période où ce qu'on va prendre beaucoup plus de temps pour analyser nos projets, préparer le printemps, les projets de l'année prochaine, etc. Puis on est beaucoup dans la rétrospective et la planification de l'autre année. Puis une des choses qui arrive beaucoup dans les planifications de projets, c'est la subdivision. Puis est-ce que tu as eu l'opportunité, toi, d'avoir certains projets où est-ce qu'il y a eu de la subdivision à faire ou à prévoir?
Même pas, honnêtement, à date, là, dans mon parcours, vraiment pas. Fait qu'aujourd'hui, je suis là comme un étudiant, les oreilles ouvertes pour être invité.
Vraiment le fun. Puis la Bulle immobilière, comme je disais tantôt, on est rendu déjà à notre 7e saison qui fait en sorte qu'on reçoit énormément d'invités nichés dans l'investissement immobilier ou qui viennent parler de leur parcours sur l'immobilier, etc. Puis aujourd'hui, on parle à Steve Pellerin. Salut Steve, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Président de la compagnie ESP.
Exactement.
Puis toi, ton objectif de ESP, c'est aussi de proposer un accompagnement, si on veut, pour la subdivision ou l'accompagnement pour aider des promoteurs, entrepreneurs, investisseurs à optimiser leur projet.
Tout à fait. Dans le fond, c'est ESP, la division de développement. Ce qu'on fait, c'est que on aide les gens dans leur projet, là, on les aide à se faire une tête là-dessus.
Parfait. Puis toi, au niveau de ton parcours, la subdivision, etc., est-ce qu'on peut penser que tu as un parcours en urbanisme puis tu as niché ta spécialisation là-dedans? De où que...
Du tout, en fait, je pense qu'une des meilleures formations, c'est d'apprendre sur le terrain. Là. Donc,
streetwise.
Je suis beaucoup un gars sur le terrain, puis je suis passionné de l'immobilier depuis un certain moment. Donc, c'est en faisant là, qu'on apprend. On fait des bons coups, on fait des erreurs. Fait que maintenant, ben j'essaie de...
Ne pas reproduire les erreurs.
Exactement, puis je fais sauver les erreurs à d'autres personnes là, qui font affaire avec mes services.
Puis ça, c'est super intéressant. Puis est-ce que tu es un gars qui sort de l'urbanisme ou c'est quoi ton parcours?
Non, en fait, ben comme je te dis, moi, je suis juste une personne qui était passionnée de l'immobilier depuis mon jeune âge. Puis ça s'est toujours poursuivi. Puis je me suis spécialisé vraiment dans le lotissement de terrain. J'ai commencé à en faire à mon propre compte, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais un certain talent là-dedans, donc j'ai poursuivi là-dedans. Là.
Puis on va se le dire aussi, il y a le talent, mais il y a aussi la patience, là, parce que oui. c'est pas des choses qui bougent rapidement. Là.
Effectivement, puis on va en parler plus tard. Là. Il faut énormément de patience quand on fait ça. Il
faut être méthodique nécessairement. Puis toi, c'est-tu un deal qui t'a amené à triper là-dessus ou tu t'es formé, tu as regardé un peu tout ça, puis tu as dit, garde-moi, le lotissement, la revalorisation, ça me ressemble, je vais aller là-dedans, ou... Par une opportunité ou un premier deal, tu t'es dit, OK, je mets le pied dedans, finalement, je pense que je suis bon là-dedans. Puis
ben, en fait, c'est depuis que je suis tout jeune, même quand je me promenais en auto, là, plus jeune, avec mes parents, ben c'est juste de passer dans des quartiers, puis de voir souvent des maisons, des architectures différentes, qui sont des maisons qui sortaient du lot, ben je me suis mis vraiment à aimer ça, puis... c'est ça, exactement.
Et t'es arrivé en 2013, un achat de jumelé, c'est ça?
Exactement. En 2013, c'est le premier terrain que j'ai développé. C'est un terrain qui était vacant, qui était affiché sur du proprio. Puis, c'était un zonage qui permettait la construction de jumelés, mais les marges latérales ne permettaient pas la construction d'un jumelé. Donc, on l'a fait en formule bifamiliale. Tu dois connaître ça, Jean-François. Tu dois en voir de temps en temps, là, en formule condo, qu'on dit. Fait qu'on l'a développé de cette manière-là.
Puis ça, c'est important d'en parler parce que les gens comprennent pas c'est pourquoi qu'il y a des jumelés qui sont en formule copropriété. Puis, ouais. Tu sais...
C'est pas juste les maisons de ville, tu vois. Moi, je connais moins ça. Mais c'est pas parce que c'est plusieurs collés qu'on y va avec le concept de copropriété ou d'indivis.
Non, c'est une question de zonage. Puis c'est une question de densifier un secteur qui ne permet pas l'implantation de jumelés. Tu sais, un jumelé, il faut qu'il y ait un mur séparateur entre le côté gauche puis le côté droit. Par contre, souvent, le zonage va permettre deux logements. Mais le deux logements, c'est pas mentionné qu'il faut qu'il soit un par-dessus l'autre. Ils peuvent être un à côté de l'autre. Okay. Mais pour le mettre un à côté de l'autre, il faut avoir un zonage qui va permettre le bifamilial. Puis en le faisant en formule copropriété, qu'est-ce qui arrive? C'est que le bifamilial superposé, on vient le mettre adjacent comme ça. Fait que ça devient un seul et unique immeuble avec deux parties privatives. Où ce que là, on vient densifier un terrain. Où ce que la valeur d'un jumelé... est des fois plus intéressante qu'un appartement un par-dessus l'autre. Est-ce que je me trompe?
Exactement.
Puis c'est souvent ce qu'on voit dans différents secteurs où ce que la municipalité a permis d'avoir du bifamilial, mais le jumelé n'est pas autorisé. C'est uniquement des maisons unifamiliales.
C'est quoi, au niveau du jumelé, tu dis qu'il y a une marge latérale qui est demandée de plus qu'avec l'option...
Ben souvent, mettons, dans une grille de spécification de la ville, ben ils vont dire ton jumelé doit avoir minimalement 6 mètres de largeur, puis la marge latérale de chaque côté du jumelé doit avoir 4 mètres. Oui. Donc là, ça veut dire que ça te prend un terrain de 20 mètres de mesure frontale pour pouvoir subdiviser le lot et faire un jumelé de façon standard.
Oui.
Mais souvent, c'est pas le cas. Là. Souvent, les lots sont plus petits que ça. Là. Souvent, on voit du 15,3 mètres, du 50 pieds. Fait que c'est là qu'on peut le faire en formule bifamiliale. Mais petit bémol, c'est pas possible de le faire dans toutes les villes.
Okay.
Donc, sur la côte de Beaupré, faites attention. Là, j'ai essayé d'en faire un. Puis eux, dès qu'il y a un mur mitoyen, peu importe la façon que tu construis ton jumelé...
Ils considèrent comme de quoi c'est jumelé.
Exact.
Et non bifamilial.
Dès que tu as un mur mitoyen, coupe-feu et tout, c'est un jumelé. Il n'y a pas de discussion là-dessus.
Oui, c'est que c'est pas la forme légale ou la forme de...
Ben, ça a été une forme pour contourner justement la réglementation, pour pouvoir densifier puis pouvoir créer de la valeur aussi. Parce que tu sais, si on construit un duplex un par-dessus l'autre versus un jumelé un côté de l'autre, on n'a pas la même valeur. Puis un des points importants que tu mentionnais aussi, c'est que tu sais, on a un terrain de 20 mètres, mais souvent, ça va être du 15 mètres, du 16 mètres. Mais en faisant 16 mètres, c'est qu'on est capable d'avoir juste une marge de recul et non deux fois deux marges de recul, qui fait en sorte qu'on a sensiblement la même bâtisse, sinon même des fois un peu plus large de qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, tu sais, ça vient créer de la valeur énormément, puis c'est la formule copropriété jumelée là, qui a permis de faire ça. Puis souvent, malheureusement, c'est des unités qui sont très à risque au niveau de la gestion de la copropriété. Parce que, tu sais, maintenant, avec la loi 16, la loi 141, on doit avoir un fonds d'auto-assurance, on doit avoir un fonds de prévoyance, il faut avoir une étude du fonds de prévoyance aussi. Par contre, souvent dans les déclarations de copropriété pour ces immeubles-là, ben c'est souvent qu'est-ce qui est chez vous, tu t'en occupes, qu'est-ce qui est chez nous, je m'en occupe. Puis, tu sais, rendu là, ben...
Un gros carnet de d'entretien, non, comme ils le demandent.
Non, exact. Sauf que d'un autre côté, c'est quand même litigieux, là. Parce que, tu sais, on est juste deux copropriétaires. Il n'y a pas d'assemblée générale annuelle qui est faite généralement. Il n'y a pas de syndicat d'assemblée générale annuelle, etc. Fait que, tu sais, souvent, c'est géré bon an, mal an, tu sais...
À bonne franquette.
À bonne franquette. Mais, tu sais, ça amène certaines complications quand arrive un moment de revente aussi, là.
Fait que ça, c'était un premier deal que tu as vu en 2013.
Exactement. Okay. Ouais.
Puis après ça, arrive un deuxième deal où ce que tu disais, que tu promenais ton chien, tu vois une pancarte d'un courtier, tu vois comme un potentiel. Puis juste comme ça, est-ce que sur la description de la propriété, le potentiel était décrit?
Non, comme c'est bien souvent le cas, c'est pas décrit par le courtier. Faut vraiment le deviner ou faire appel à soit un arpenteur ou à un lotisseur un peu comme moi. Qui va déterminer qu'est-ce qu'on peut faire sur le terrain. Donc oui, c'est ça. Je promenais mon chien, c'était à environ 200 mètres du jumelé que j'avais bâti. Je prenais mon chien, puis ça a été une des marches les plus payantes de ma vie. c'était de trouver ce terrain-là qui avait 27 000 pieds carrés à Charlebourg. Donc pour moi, c'était un no-brainer d'acheter ça au prix qui demandait, même si la maison qui était sur le terrain était vraiment maganée, là, puis repoussante, là, voire à la limite. Donc, on a embarqué là-dedans, puis on a acheté tout ça. Puis,
tu sais, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à voir un potentiel que les autres ne voient pas non plus. Puis d'un autre côté, qu'est-ce qu'on achète? Bien, même si on subdivise le terrain, la propriété, puis je donne un exemple, une maison à 250 000 avec un terrain de 27 000 pieds carrés, ben c'est sûr que quand on va vouloir revendre la maison, elle ne vaudra plus 250 000 parce que là, tu sais, ça se peut qu'elle se retrouve avec un terrain seulement de 8 000 pieds carrés, 10 000 pieds carrés ou quelque chose comme ça. Mais la différence de valeur en vaut le coup parce que peut-être que cette maison-là, on va la vendre 220 000. Même si on perd 30 000, on vient de gagner un terrain à côté où ce que le coût du terrain revient à 30 000 $ au lieu de 125 000 du terrain. Fait que tu sais, il y a quand même un coût d'acquisition qui vaut vraiment la peine. Puis quand on dit d'avoir un profit à l'achat, ben tu sais, ça fait partie du principe de la subdivision. Là.
Puis tu sais, dans ces premiers projets-là, tu dis que tu avais déjà l'œil, mais qu'est-ce que tu voyais dans ton œil, à part effectivement que le terrain était grand, mais qu'est-ce qui était, mettons, tes balises ou tu n'avais peut-être pas les connaissances que tu as maintenant aujourd'hui, là, mais tu regardais quoi, la ligne frontale ou tu disais, bon, mais je suis capable de voir si le terrain est enclavé. T'sais, c'était quoi les indices qui fait que tu voyais le potentiel que, comme tu dis, la plupart des courtiers ne présentent pas sur une fiche de base? Là?
En fait, là, une des caractéristiques d'un bon prospecteur, c'est souvent d'être curieux puis de regarder ce que les autres font. Fait que, tu sais, moi, à l'époque, là, on remonte à début 2010, il n'y avait pas beaucoup de formation en immobilier. Il y en a beaucoup maintenant aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Puis, je me suis formé sur le tas en regardant des projets. Souvent, je me promenais en auto, je passais devant un immeuble. Je me disais, il me semble qu'il y a un grand terrain, il y aurait de quoi à faire ici. Mais, tu sais, par peur de l'acheter ou de se tromper, je ne le faisais pas. Deux mois plus tard, je repasse devant le même immeuble, le terrain subdivisé, puis une construction neuve qui se fait à côté de l'immeuble. Donc, à force d'avoir ce genre de deal-là qui me passait entre les mains, je me suis dit, bon, ben, finalement, je suis pas si fou que ça. Fait que moi aussi, je vais le faire.
Mais là, tu es retourné chez vous, puis là, tu allais dans ton sous-sol, puis tu disais, bon, comment il l'a fait, combien il l'a acheté, c'est qui le développeur, c'est quoi la démarche qu'il a faite, qu'est-ce qu'il construit, tu allais creuser, là.
Je regardais plus tard, là, de la façon qu'il a fait sa ligne de l'eau, puis qu'est-ce qui a pu permettre de se bâtir. Puis c'est un peu comme ça que j'ai appris, là, la formule des jumelants copropriété. Ça regardait ce que les autres entrepreneurs faisaient. Je me suis dit, ben, si eux sont capables de le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. Il faut juste que j'apprenne comment le faire. Fait que
puis tu disais aussi là, que des fois, on est à pas grand-chose de réussir à faire un projet rentable ou de maximiser un rendement sur un projet. Tu me disais, je crois que tu avais acheté une bande de terrain qui, cette bande-là, était comme vraiment importante pour ne pas être dérogatoire. Parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut pas subdiviser sans être dérogatoire. Parce que là, tu sais, il faut être, tu sais, cautious, il faut être 100% direct avec, avec la réglementation. On peut pas déborder sur la réglementation du moment qu'on vient lotir ou avoir un nouveau projet. Puis toi, tu me disais que tu avais eu justement un projet antérieur où ce que tu as acheté une bande de terrain qui, pour toi, au niveau du coût d'acquisition, valait beaucoup moins que la rentabilité du projet complet, là.
Ben, je l'ai fait à quelques reprises. Ben, je pense que tu fais allusion probablement à un projet que j'ai fait dans le nord de Beauport. C'était une vieille maison. Souvent, c'est des vieilles maisons. Là. On sentait qu'à l'époque, ouais, le pied carré était
plus
cher qu'aujourd'hui. Puis c'était souvent des terres qui étaient cédées de génération en génération. Fait que ça fait que c'est des vieilles maisons souvent qui ont des grands terrains. Puis j'ai acheté cette vieille maison-là avec un partenaire. Puis le voisin voulait subdiviser son lot. Aussi, donc à force de jaser avec lui, on s'est rendu compte que lui, il manquait 0,9 mètres de mesure frontale pour pouvoir diviser son lot. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une description technique de la parcelle de terrain qu'on allait lui vendre. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a pu lui vendre la parcelle de terrain et ensuite subdiviser son lot. Puis on l'a accompagné là-dedans parce que pour lui, il n'en avait jamais fait. Là, donc oui, ça nous faisait plaisir de le faire pour lui. En même temps, ben, on a quand même généré un bon profit en lui vendant cette parcelle de l'eau-là. Donc, c'est une chose qui se fait. C'est quand même rare, là, parce que ce projet-là était un projet de multifacette. On a subdivisé l'eau pour bâtir un jumelé en façade. La vieille maison qui était reculée, on a pu la revendre. Puis, on a vendu une parcelle de l'eau au voisin.
Fait que vous avez splitté ça en trois morceaux.
Exactement.
J'en donne un peu au voisin. J'en vends une nouvelle partie, puis je revends l'existant.
C'est ça, exact.
Puis, tu sais, quand même, c'est fou qu'on puisse dire que sur une aussi petite parcelle de terrain, toute la démarche que je connais pas, que tu vas nous présenter tantôt, mais tout l'arpentage, tous les honoraires, tous les professionnels qui viennent là-dedans, parce que, tu sais, les lots, je veux dire, tu changes pas ça en demandant une petite modification en ligne rapide, là, on s'entend, là. Puis ça valait quand même la peine financièrement, oui, que tout le monde y gagnait au compte, là.
Oui, effectivement, c'est ça. Ça fait travailler beaucoup de monde, puis il y a quand même beaucoup de frais, puis de démarches à mettre là-dedans. Mais au final, oui, ça valait vraiment la peine.
Très cool. Au niveau de la bulle immobilière, ben, on propose des sujets chauds. La subdivision de terrain fait partie des sujets très intéressants puis très à la mode actuellement. Tout le monde veut optimiser leur argent puis de différentes façons, etc. Puis ça en est une des sources de revenus qui peuvent être intéressantes aussi quand c'est bien fait puis dans la mesure où ce qu'on a la patience de le faire correctement aussi. Puis il y a toute une démarche puis une méthode à faire aussi. Vous êtes à l'écoute de La Bulle immobilière. Nos émissions sont toujours disponibles en podcast ou disponible sur notre site web sur jean-françois-morin.ca. Vous désirez plus d'informations, restez avec nous. On va revenir tout de suite après la
pause. Ôtez-vous de là!
Attention, pas pour les doigts!
Tu veux de l'extra-cash dans ta vie?
Bingo!
Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000$ distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent!
Licence 20-20-02-02-85-51-01.
L'Hôtel 71, un établissement d'exception, une expérience en soi, idéalement situé dans le Vieux-Port de Québec, c'est l'occasion de vous gâter cet automne. Faites votre nid dans un édifice patrimonial avec vue sur le fleuve, décor feutré et moderne à la fois, et tous les services, dont le fameux restaurant Il Mato. Reconnu à l'international et à l'échelle canadienne année après année, l'Hôtel 71 est plus accessible que jamais. Encore lauréat du prestigieux et international magazine Condé Nast cette année. L'Hôtel 71, c'est des vacances de luxe en soi, chez soi. Surtout ces temps-ci, laissez pas ça seulement aux voyageurs étrangers. Hôtel71.ca. Sentez-vous en voyage première classe chez vous.
Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com.
Vous cherchez un cadeau qui peut sauver une vie? Saviez-vous que 13 000 personnes se font prendre pour alcool au volant chaque année? Ça veut dire plusieurs décès et accidents, et peut-être même une perte d'emploi. Cette année, offrez-vous un alcotest certifié de chez Alco-Prévention Canada. Un cadeau original et utile. Disponible chez Vitro Plus et alcoprévention.com.
Pour le temps des fêtes et vos repas en bonne compagnie, pensez Pat Smoke Meat et son exquise viande fumée vendue à la livre pour emporter. Ça remonte le canadien. La perle des galeries Chagnon rayonne pendant les fêtes. Le meilleur Smoke Meat à Lévis, c'est Pat Smoke Meat.
Venez découvrir notre boutique Histoire de Bulle au 5209 Boulevard Guillaume Couture à Lévis. Produit de soins corporels de première qualité, entièrement produit à notre succursale de Saint-Georges. Que ce soit pour vous gâter ou pour un cadeau, Histoire de Bulle est l'endroit par excellence. Histoiredebulle.com.
Vos Rôtisseries Saint-Hubert vous offrent présentement le régal des fêtes pour deux personnes. Une cuisse, une poitrine, tous les accompagnements, deux mini tourtières avec ketchup aux fruits et deux portions de tarte au sucre.
CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip-hop.
Bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
De retour à la bulle immobilière avec mon acolyte Kevin Filion de Plan de Match Rénaux. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et aujourd'hui, on parle de subdivision de terrain avec Steve Pellerin de ESP Développement. C'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est un sujet qui pique beaucoup de curiosité de nos investisseurs aussi. J'aimerais ça, Steve, que tu nous parles de trucs du métier. Tu sais, comment qu'on arrive à dénicher des opportunités d'affaires qui peuvent être rentables ou tu sais, intéressantes à développer. Quel truc que tu peux nous donner?
Un des trucs qui paraît peut-être simple, mais qui est tellement important, moi, je dis tout le temps que l'autoroute, c'est la pire ennemie d'un prospecteur. Si tu prends toujours l'autoroute pour aller chez toi, tu ne verras pas les deals. Moi, souvent, mettons,
c'est bon, ça.
J'étais à Basseville, puis je veux remonter chez nous à Charlebourg. Ben, je prends Première Avenue. Je monte la Première Avenue. C'est hyper dense là-bas. Des fois, il y a des petits coins, des petits trésors cachés qu'on peut voir. Des fois affichés, des fois non. Puis on prend des notes, puis on contacte les gens là, s'ils sont intéressés à vendre. Fait que souvent, ça peut paraître très simple, mais c'est juste en venant ici tantôt à la station, là, tu prends ces présidents Kennedy, je pense.
Ouais.
Bon, il y en a plein d'opportunités. Là. Il y en a qui sont affichés, d'autres non. Et tu sais, je vois des garages qui sont à vendre. Là. Si le terrain n'est pas trop contaminé, peut-être tu peux le démolir puis faire un 16 logements. Là, ouais. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut regarder.
C'est sûr que de l'autoroute, tu vois moins de deals un peu. Si tu prends l'avant,
tu ne feras pas un deal sur Valero. Tu n'achèteras pas Valero pour le débâtir.
Non, mais c'est un très bon truc.
Ouais. Fait que ça, c'en est un.
Fait que un des trucs que tu nous dis, c'est que promenez-vous dans vos quartiers. Là.
Physiquement, pas juste Google Maps.
Puis tu sais, je sais que Jeff Tremblay, lui, sa prospection se passe beaucoup à la salle de bain avec son téléphone cellulaire, avec Google Maps. Là. Mais ça doit marcher, ça aussi.
Ça marche très bien aussi. Ça m'a déjà
une bonne combinaison des deux.
Oui, c'est un ensemble. Puis j'ai déjà pogné un deal. Là. Je me promenais en auto pour aller voir une propriété que je venais d'acheter. Le voisin d'en face, c'est une succession, ils sortent les meubles de la maison. Fait que je fais « Hey, allô, qu'est-ce que vous faites là? » On sort les meubles, tu sais, notre père est décédé, c'est ça. Fait que tu sais, il y a une relation humaine à établir à ce moment-là. Faut être très empathique, il faut avoir bon cœur. Il ne faut pas faire de l'immobilier, seulement faire de l'immobilier puis faire de l'argent. Il faut être très empathique aussi dans ces situations-là. Donc, c'est ça. C'est en se promenant souvent, soit à pied avec notre chien, en auto, on regarde tout le tour. Il faut rester aussi prudent puis regarder la route. Là. Des fois, c'est ce qui est dur à faire. Mais fait que c'est ça. C'est un des trucs là, que j'utilise.
Tu vois, je pense à Alexandra Gagné qui était venue nous voir, qui disait, elle, que c'est sa course. Tu sais, ouais. En fond, sa course, c'est sa prospection. Fait justement jamais la même run de course pour son entraînement. Dans le fond, elle s'entraîne en même temps qu'elle prospecte. Fait que... C'est un autre dérivé, ce truc-là.
Tu amènes ça à un autre niveau, tu écoutes les capsules de la bulle immobilière en faisant ton training. Puis là, tu écoutes, c'est vraiment rentabiliser le temps, là, genre 2000%. Là. C'est malade. Puis est-ce qu'il y a d'autres outils que tu vas utiliser, par exemple? Il y a beaucoup le registre foncier qu'on est capable de voir, justement, les successions, etc. Par contre, je veux pas cracher sur mon bon gouvernement, mais les sites gouvernementaux sont pas toujours évidents non plus. Est-ce qu'il y a d'autres outils que toi, tu utilises pour améliorer ta prospection?
Ben, les plus grands investisseurs souvent utilisent JLR. Là. Je l'utilise régulièrement pour vérifier, d'un, les avis de transmission. Donc, s'il y a des gens qui sont décédés, il y a des avis de transmission qui sont émis, qui sont enregistrés chez le notaire. Sinon, il y a aussi les avis de 60 jours là, qui peuvent être intéressants. Là-dessus, c'est pas toujours facile, mais il n'y a rien de facile en prospection. Là, fait que faut se le dire. Donc, c'est un outil qui est très, très intéressant. Puis en même temps, souvent, on peut consulter les actes de vente sur JLR, puis on peut lire, puis des fois, bon, on peut voir, bon, est-ce qu'il y a une servitude de la ville sur le terrain, l'Institut d'Hydro-Québec. Fait que ça, c'est. Il y a vraiment plein d'informations là-dessus. Sinon, ben, tu sais, en prospection hors marché, ben, tu sais, il y a beaucoup de bouche à oreille aussi. C'est d'en parler. T'sais, si tu vas te faire couper les cheveux toujours au même endroit, ben, c'est, tu peux peut-être en parler là, à ta coiffeuse. Écoute, je serais peut-être intéressé à acheter un 6 logements, 8 logements. Je recherche des maisons avec des grands terrains. Ben, tu sais, ça peut t'apporter un deal, ça aussi. Puis sinon, ben, comme tout le monde connaît, là, un peu dans le marché, là, sur les sites là, tels que Centris, Duproprio, Publimaison, qui est moins connu. Même sur les petites annonces classées là, comme Kijiji.
Kijiji
Les Packs, honnêtement.
Il y a des petits trésors des fois.
Oui, des petits trésors, même Marketplace, là, mais c'est du temps. C'est beaucoup de temps, mais quand on est passionné, on est prêt à le faire.
Parce que c'est comme pas juste un milieu, mais tu as les deux. Tu sais, tu as le côté terrain, tu as le côté actif, le côté, comme tu dis, représentation, puis hier, mais tu as aussi une portion un peu plus quasiment archiviste ou de documentariste, ouais. Où tu creuses, tu vas chercher.
D'enquêteur, définitivement.
C'est ça, c'est un peu, c'est comme, faut tailler un peu les deux, les deux cordes à ton arc, là, finalement, pour être bon en prospection. Puis c'est quoi, tu sais, comment, au début de l'émission, je te demandais comment tu as développé ton œil dans les premiers deals, mais maintenant, comment tu regardes les deals pour dire, bon, mais justement, je les revalorise ou je les vois outside the box, ou tu sais, c'est quoi un peu les schèmes ou les façons de penser qui t'amènent justement à être capable de valoriser un deal que plusieurs gens vont dire bon, ben, c'est juste trop cher pour une vieille maison défaite. Là, t'sais.
Exactement. Première chose à faire, c'est de regarder le zonage. Maintenant, j'ai ouvert mes œillères là, de prospecteur. Puis je regarde pas juste seulement les grands terrains avec un espace sur le côté de la maison. Je regarde même maintenant le zonage. Donc, tu sais, si la maison est peut-être 250 000 $ mais si ça te permet de bâtir. Un 12 logements, ben ça vaut la peine là, peut-être de la démolir puis de faire un projet dessus. Sinon, dans certains cas, souvent, on a un grand terrain, mais la maison est implantée en plein centre du terrain. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refaire un solage à côté puis déplacer la maison existante sur le nouveau solage et construire à côté.
OK.
Donc, fait que le zonage, c'est vraiment la première chose à vérifier. Puis ça, cette information-là, c'est toujours accessible sur les sites de la ville. Là. Donc,
exact. Puis ça, maintenant, là, c'est vraiment facilitant. Là. T'sais, autant sur la ville de Québec, la ville de Lévis, on a accès là, aux extraits de la matrice, on a accès aux grilles de spécification, les grilles d'usage. On est capable de voir le plan d'aménagement du territoire pour voir le zonage, etc. On peut même voir les cours d'eau, etc. Fait que c'est vraiment bien fait. Puis c'est des outils qui sont ultra performants. La seule chose que moi, je déplore un peu sur ces sites-là, c'est qu'on n'est pas capable de chercher par type de zonage qu'on a de besoin. Tu sais, un 5 et plus, etc. Ou tu sais, qu'on recherche exactement un H8 pour la ville de Lévis, puis qu'on tombe directement dans ce secteur-là.
Si c'était facile, tout le monde le ferait.
Oui, c'est ça, exact.
Pour laisser un petit peu de barrière.
Exact, mais tu sais, c'est des outils qui sont tellement payants. Puis initialement, quand moi j'ai commencé dans l'immobilier, c'était pas accessible à Lévis, ces sites-là. Fait que tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au bureau d'urbanisme, puis là, j'ai gossé, puis finalement, il m'a envoyé une carte PDF, puis il m'a envoyé les 12 800 grilles de zonage. Fait que là, tu sais, à toutes les fois que moi, je regardais une propriété, je regardais son zonage, je m'imprimais la page 12 802 parce que c'était là que c'était. Puis à quelques reprises, je me suis trompé puis j'ai fait imprimer. Mais
imprimer tous.
Exact. Ça m'est arrivé régulièrement. Puis là, j'étais comme, non! Mais puis là, tu sais, j'étais comme, ferme l'imprimante. Mais ça arrive beaucoup, ça, ces situations-là. Puis souvent, les villes ont des ambitions aussi de densifier, là, tu sais, parce que les plus grandes propriétés des années 70, les centres se sont bâtis autour de ces propriétés-là aussi, puis ça a souvent été des propriétés unifamiliales. Par contre, la municipalité tangue à vouloir densifier les centres, fait que, tu sais, souvent vont amener un zonage plus permissif dans ces zones-là pour permettre justement d'amener du 6, du 12, du 24 logements, etc. Puis,
tu sais... Même dans les villes, les plus petites villes, les villages, là, tu sais, ces outils-là ont été mis en place là, dans les dernières années. Je pense que c'est GoNet ou GoAzimut.
Ouais, Azimut, oui.
Tu sais, qui sont. Fait que, même pour ceux qui font de la prospection dans les villes un peu avoisinantes, pas nécessairement dans les grandes villes, toute cette information-là maintenant est accessible assez facilement. On n'a pas besoin d'aller au bureau de la ville pour savoir c'est quoi le zonage dans tel secteur. Fait que ça te permet de faire un premier screen là, en bon français, là, de voir le potentiel du terrain.
C'est ça. Puis souvent dans les plus petites villes, ben, on a un accès plus facile à l'information là, au bureau d'arrondissement. Donc,
on a une proximité avec les gens.
Exactement. Puis souvent, même juste un coup de fil, là, on a vraiment beaucoup d'informations de l'employé. Donc, c'est moins, y a moins d'étages à franchir versus, mettons, les plus grandes villes là, comme Québec ou Lévis, là, où c'est un peu plus ardu. Là,
mais ça amène aussi son lot de défis, là, par exemple, dans Bellechasse, où tu as un urbanisme ou un directeur de l'urbanisme pour l'ensemble du territoire qui, le lundi matin, travaille à Beaumont, le mardi matin, travaille à Saint-Michel. Après ça, tu sais, si tu as une demande pour Saint-Raphaël, puis qu'il travaille juste le jeudi après-midi, puis on est le vendredi, ben si tu avoir la réponse seulement jeudi après-midi de la semaine d'après, ça l'amène aussi son lot de défis par rapport à tout ça, mais bref, tous les outils sont disponibles pour nous. Puis toi, à titre de prospecteur ou à titre de président de SP Développement, c'est quoi les genres de services que tu peux offrir, autant pour des investisseurs ou peut-être même pour des courtiers immobiliers, là?
Ben en fait, c'est de connaître les possibilités de votre projet, en fait, de votre terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire sur votre terrain? Souvent on ne le voit pas. Puis, si je prends exemple, une maison sur un coin de rue, ben là, les marges peuvent être inversées. On n'entrera pas dans le vif du sujet, là, mais les marges peuvent être inversées. Donc, un terrain que tu pensais peut-être pas pouvoir lotir, subdiviser, ben au final, moi, je vais peut-être pouvoir le faire. Là.
Ah, donc, tu choisis ta façade.
Exactement, c'est ça.
Fait, moi, c'est un projet de construction avec un client là, quand j'avais ma compagnie qui avait une certaine élévation puis qui n'était pas capable de l'atteindre, n'était pas capable de le respecter, mais finalement a fait changer justement la rue sur laquelle était son frontage pour être capable d'avoir un toit monopente avec la hauteur désirée.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un bel astuce qu'on peut employer parce que souvent, on a un 6 mètres de marge frontale à respecter puis un 7,5 en arrière. Mais si on est capable de virer ça de côté puis de les mettre sur le côté de la maison, ben peut-être qu'on pourra faire un terrain de 15 mètres derrière, là, ce qu'on n'aurait pas pu faire s'il fallait respecter le 7,5 mètres de marge arrière.
Là. D'autant plus que ces terrains-là, des fois, on pas la cote vu que c'est des coins de rue, donc ils sont comme un peu dévalués. Mais dans la réalité, peut-être que toi, tu y vois un même plus gros potentiel, fait que la marge peut être encore plus forte. Là.
C'est ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est on peut toujours aussi agrandir la maison par en arrière. Si jamais le zonage permet, soit un duplex ou triplex, ben on peut peut-être agrandir la maison dans la marge arrière. Là, donc, on vient gagner une certaine valeur.
Une des choses qui est vraiment importante quand on fait du démarchage pour subdiviser des terrains, pour faire du multilogement ou quoi que ce soit, c'est un des premiers points qui est, selon moi, le plus important, c'est de vérifier les normes de stationnement. Parce que tout va se positionner par rapport aux normes de stationnement. Puis, tu sais, ça a une dimension fixe, un stationnement selon la disposition que tu vas le faire. Puis, si jamais tu construis un 4 logements. Exact. Puis, tu sais, tu construis un 4 logements, dans la zone, c'est 1,2 cases de stationnement. Tu tombes à 4,8, ben il faut 5 cases de stationnement. Puis, si tu n'es pas en mesure de rentrer 5 cases de stationnement selon la norme de la ville, pis ça veut pas dire que, ben oui, tu sais, le tarif me permet d'y mettre les 5 collés en face de la bâtisse. La municipalité ne veut pas toujours avoir les stationnements directement en face de bâtisse. Puis, ça, c'est vraiment, selon moi, un des premiers points à vérifier. D'un, c'est quoi la superficie? C'est quoi la superficie construisible? Puis après ça, comment qu'on implante les stationnements, là?
Effectivement, ça, j'applaudis ça de la part des villes, là, d'essayer de bannir un peu les stationnements devant les bâtiments. Donc, il faut le faire en arrière. Mais c'est très, très restrictif. Là. Souvent, ben, si je suis en train de faire un projet justement à Beauport en ce moment pour un triplex, puis c'est les stationnements là, qui nous causent quasiment le plus de problèmes. Là, c'est d'essayer. Ben, ça nous prend seulement 2 cases, mais on est dans un milieu urbain dense. On a un petit terrain avec une pente forte en plus de ça. Donc, c'est là que la magie opère, puis que mes services ont une plus-value parce qu'il y a quand même beaucoup de démarches à faire avec la ville.
Puis, tu sais, c'est pas juste de faire un abri d'auto, là, puis de faire une construction en porte-à-faux pour avoir des stationnements en dessous parce que la municipalité peut refuser ce type de projet-là aussi. Ça devient complexe. Le stationnement, c'est un des nerfs de la guerre là, pour des projets d'implantation sur du démarchage de terrain. Puis, au niveau de l'accompagnement, est-ce que vous pouvez embarquer à n'importe quel moment dans un projet? Par exemple, moi, je suis déjà propriétaire, j'avais déjà eu l'idée de subdiviser, mais je suis pas rendu là. Est-ce que toi, tu peux embarquer à ce moment-là? Ou est-ce que, tu sais, par exemple, je suis propriétaire du même terrain, mais ma démarche de subdivision est déjà faite. Est-ce que tu peux embarquer à ce moment-là aussi?
Oui, effectivement, j'en ai fait un l'an passé, puis j'en ai un là, qui s'en vient sur la rive sud. Là, fait que je vais apprendre un peu le rouage là, avec la, la ville de Lévis. Là, je suis plus habitué sur la rive nord, mais je veux en faire sur la rive sud davantage. Donc, j'en ai d'en faire un. Puis, c'est un terrain qui est déjà loti. Là. C'est un terrain qui est déjà... c'est même pas une subdivision, c'est un terrain que la personne a acquis à l'époque. Puis maintenant, elle veut le développer. C'est un peu particulier, ce projet-là, parce que là, il y a des droits acquis. Donc, normalement, ce terrain-là, on peut pas le bâtir, mais là, il y a un certain droit acquis sur ce terrain-là. Donc, maintenant, il faut, faut voir à quel point là, la ville l'interprète. Puis c'est là que ça vient...
Puis le droit acquis, là, c'est très délicat. C'est très délicat parce que l'interprétation d'un n'est pas l'interprétation de l'autre. Puis le droit acquis...
belle zone grise.
Oui, puis les municipalités tanguent à les faire disparaître dans le sens que dès qu'il arrive un changement, une modification ou quoi que ce soit...
On l'avale puis on le tasse.
Puis on le tasse là, le plus rapidement possible. Puis on le voit beaucoup, beaucoup. Puis une des choses qui est quand même importante aussi à savoir, puis tu sais, tu le travailles de cette façon-là parce que tu es là-dedans depuis longtemps, mais travailler en collaboration avec la municipalité au lieu d'imposer des projets amène des facilités d'acceptation de projets beaucoup plus facilement. Parce que, tu sais, je vous donne un exemple, vous avez, nous on l'a vécu ici à Lévis, on a fait une subdivision d'un terrain où ce qu'on a demandé de remettre le lot dans l'état originel avant la réforme cadastrale où ce que c'était deux lots. Puis le fait d'avoir fait ça au niveau du ministère, ben la municipalité a été insultée de pas avoir la taxe verte, a été insultée de pas être impliquée dans le processus de subdivision du terrain dans un quartier chaud du Vieux-Lévis. Puis finalement, ils ont retenu nos permis pendant 6 mois pour s'assurer de nous faire chier jusqu'au bout. On n'a pas le droit de dire ça, mais tu sais, la réalité était pas mal plus à ça. Puis finalement, ben on est arrivé à avoir le projet, puis ça a été ultra compliqué comme situation. Puis c'est de travailler en amont, puis c'est là, moi, que j'ai compris comment qu'il fallait travailler avec la municipalité, là. C'est d'aller les voir puis leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme projet? De quelle façon vous voyez le développement du secteur. Puis après ça, quand on arrive à déposer des plans, là, pas d'arriver avec des plans détaillés, complets, avec, tu sais, prêts à construire, là, c'est d'avoir une volumétrie, puis de leur dire, écoutez, est-ce que vous êtes capable de mettre votre crayon sur le papier là pour nous montrer qu'est-ce que vous aimeriez dessus, etc. Puis en faisant ça, là, l'ouverture est beaucoup plus grande, puis c'est beaucoup plus facile à travailler avec la municipalité que toujours d'essayer de pousser dans la gorge. Votre idée est super bonne, sauf que ça se peut que la réceptivité de la ville ne sera pas au même moment. Puis, tu sais, un des défauts des municipalités, puis je sais pas si tu l'as vécu autant sur la rive nord que sur la rive sud, mais la réponse la plus facile à donner, c'est non.
Non, ouais.
Parce qu'ils sont obligés de faire des vérifications s'ils disent oui. Fait que, tu sais, en disant non, c'est pas possible, ben là, ils viennent mettre
une
barrière à l'entrée. Puis là, ben, tu sais, c'est que les persistants qui réussissent à dire, ah oui, ben, crime, je trouve ça vraiment intéressant, votre réponse. Par contre, moi, j'ai fait quelques vérifications, puis voici des options que j'avais pensées. Est-ce que vous pourriez vérifier? Puis ils font comme, ah, oh, ouais. Ben, là, ils embarquent dans une démarche de vérification.
J'allais un peu renchérir là-dessus. C'est que oui, il y a la dextérité, puis la façon de parler, puis d'amener aux villes, mais aussi de savoir quelles sont les bases, puis dans quel canevas ils travaillent. Fait que, tu sais, toi, Steve, sachant ça, t'es plus capable de, on va dire, défendre ou monter un projet ou aller voir sa faisabilité à la ville qu'un client ou un particulier qui c'est une première fois puis qui, en une réponse, se fait revirer de bord puis se dit, bon, ben, ça doit être ça parce que c'est ça qu'on m'a dit, fait que je vais partir avec ça. Fait que, tu sais, comme, ben, dis-nous un peu comment tu travailles, justement.
Ben, c'est un peu là la création de SP Développement, c'est que moi aussi, je me suis fait dire non.
Ouais.
À quelques reprises, puis finalement, c'était oui. Fait que, tu sais, souvent, j'arrivais au bureau, puis avant même de... J'étais même pas assis, puis je me faisais dire non. J'ai dit, écoute, c'est pas non, c'est oui. J'ai fait le même projet, il y a 6 mois, puis ça a fonctionné. Fait que, oui, on peut le faire. Puis ça les fâche un peu, mais, tu sais, il faut rester calme, puis, tu sais, il faut que tu te dises que eux, ils n'ont pas tant besoin de toi, mais toi, tu as besoin d'eux. Tu as besoin vraiment de leur accord et de leur approbation. Fait que souvent, tu sais, il faut que tu prennes des grandes respirations puis que tu calmes le jeu puis tu sois quand même très poli avec eux. Puis c'est ça que j'ai toujours fait. Puis ça fonctionne encore très bien. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, il y a probablement beaucoup de citoyens qui sont allés au bureau d'arrondissement qui se sont fait dire non alors que leur projet, finalement, c'est peut-être oui. Mais ne connaissant pas les règlements puis toutes les astuces qu'on peut employer, ben, ils sont retournés à la maison puis le projet n'a pas eu lieu. Donc, fait que c'est ça.
C'est d'avoir le bon tempérament et d'avoir la patience de toutes ces démarches-là. Parce que il y en a des gens qui ont juste pas ça, en fait. Fait que, tu sais, tout ton expertise est bonne là. Puis, tu sais, juste pour être sûr, avant d'aller à la pause, peut-être, là, mais pour que les gens comprennent une situation type où tu... tu aides un client, mettons que moi j'ai un terrain avec un multi, puis je me dis, ah, je pense qu'il est assez grand pour bâtir à côté. Est-ce que tu fais déjà intervenir tout justement les professionnels, arpenteurs, si tu as justement à voir le côté légal, tout ça? Tu sais, dans le fond, dans ton analyse de dossier, soit initial, ou en tout cas quand tu dis, bon, ben possiblement que votre dossier, c'est positif, après ça, on le creusera ensemble. C'est, tu sais, rapidement, c'est quoi les grandes lignes, la façon que tu le fais?
Ben, au départ, on regarde le côté technique là, au niveau du zonage puis des spécifications. Puis ensuite, première étape, c'est la levée des lieux avec l'arpenteur. Donc, on déplace l'arpenteur sur le terrain. Puis on regarde, là, on prend la photo là, de ce que l'air a le terrain. Puis on regarde, est-ce qu'il y a de l'empiètement d'un voisin? Est-ce que, tu sais, il y a des choses qui, finalement, n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on pensait? Donc, on commence par là, puis ensuite, on développe. Fait que souvent, ben, si à lever des lieux, puis après l'analyse du zonage, ben, ça fait pas de sens, ben, on arrête tout ça là, puis pas pire okay. que ça. Là.
Fait que toi, tu gères évidemment l'arpenteur, puis tu gères cette portion-là dans ton service.
Exactement.
OK.
Excellent. Puis, au niveau des services aussi, là, tu disais que tu pouvais offrir un service à la carte, fait qu'il y a une tarification qui vient à la carte aussi, là, tu sais, selon l'étape, le temps, le démarchage, le type de projet, tu sais, une subdivision.
Arthose aussi, comme tu disais.
Exact. Puis, tu sais, la subdivision d'un terrain d'unifamilial versus un terrain de 250 logements, c'est pas le même démarche, pas le même travail, c'est pas le même temps non plus. Fait que t'es capable de t'adapter selon les réalités des différents gens. Steve, c'est vraiment intéressant tout ce que tu nous dis. La bulle nous oblige d'aller en pause à différents moment. On est diffusé tous les samedis de 11h à midi. On tient à remercier aussi tous les partenaires avec qui on s'associe avec la bulle immobilière, dont Audotrack, là, qui est une top star là, pour le rapport kilométrique là, pour les investisseurs et les courtiers immobiliers. Mais sachez que notre émission recherche toujours des partenaires d'affaires. Si jamais vous avez un intérêt, contactez-nous directement. La bulle immobilière tous les samedis, 11h à midi.
Southside! Québec, vous êtes sur CJMD 96.9 avec S-O-U-L-D-I-A. Sacré push!
Les boutiques Pop à Vap sont les plus grandes boutiques d'articles pour vapoteurs au Québec. Pas compliqué, popavap.com. La succursale de Saint-Nic est au 989 Route des Rivières. Nos garanties promettent la diversité, la qualité et les plus bas prix sur le marché. Venez nous voir, 989 Route des Rivières. Joyeuses fêtes!
96.9, The Alternative Radio.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle aujourd'hui de subdivision de terrain avec Steve Pellerin. C'est plusieurs informations qui sont ultra pertinentes, puis surtout dans ce segment-là, parce que juste avant, on parlait un peu de comment ça marche et comment si, c'est comment ça. Sauf que là, on va avoir un cours 101 sur comment ça marche la subdivision. Steve, j'aimerais ça que tu puisses m'expliquer un peu, sans nécessairement que ça soit ultra précis l'ordre, mais nous donner un peu un cheminement qu'un investisseur ou un promoteur veut faire pour subdiviser un terrain puis d'arriver avec un potentiel futur intéressant.
Bon, ben en fait, on peut y aller avec un exemple que je fais en ce moment. Un exemple d'un triplex là, qui a un grand terrain vacant sur le côté. Donc, à ce moment-là, on évoque une soumission à trois volets. On a la volet subdivision de terrain. Il faut commencer par ça. Ensuite, on a le volet implantation du nouveau bâtiment. Puis ensuite, ben, on a le volet demande de permis. Là, c'est là que ça brasse. Puis
c'est là que c'est crunchy.
Puis c'est là que les interventions sont de plus en plus importantes.
Fait que ça, c'est comme des trois étapes de service que tu offres.
C'est ça. C'est les trois
avant,
étapes.
Si
là,
ça marche, tu passes à l'autre.
Si on veut tout faire là, de A à Z, il faut passer par toutes ces étapes-là.
Okay.
Donc, ce qu'on fait là, au départ, ben, tu sais, souvent. Au niveau du lotissement, c'est moins compliqué. T'sais. C'est souvent seulement de respecter les règlements. Donc, tu sais, on peut quand même faire une analyse là, avec l'arpenteur pour voir bon si techniquement ça fait du sens. C'est plus au niveau là, de l'implantation du nouveau bâtiment que là, c'est subjectif. Puis là, c'est là qu'il faut vraiment bien faire nos choses, sinon on va être refusé à la ville. Donc, si on y va par étapes pour la subdivision de terrain, ben, en premier lieu, comme je disais tout à l'heure, la levée des lieux. Donc, on se déplace avec l'arpenteur sur le terrain. Puis là, on vient prendre la photo là, de ce que le terrain a l'air aujourd'hui. Puis on vient déterminer, bon, est-ce qu'il y a un ruisseau qui passe proche, là? Est-ce qu'on a une limite de rive ou une bande de protection riveraine à respecter? Dans certains cas, c'est 10 mètres. Dans d'autres cas, moi, j'ai déjà vu du 20 mètres. Là, donc,
ouais, deux fois 10 mètres.
Deux fois 10 mètres, là, va dire, ça prend un grand terrain. Ça ne reste plus grand place.
Sur l'Ormière, un des terrains qu'on a eu à vendre, si c'était pas cette contrainte-là, écoute, on l'aurait vendu 100 fois le terrain. Là,
ouais.
Mais à cause de ces deux contraintes-là, ça faisait en sorte. Puis le deuxième 10 mètres, souvent, on peut faire une allée de circulation, etc., mais il faut faire un contrôle des eaux vraiment importante par rapport à ça. On peut pas juste mettre de l'asphalte là-dessus puis pas ouais. contrôler l'eau. Puis ça l'amène des complexités quand même assez importantes. Puis au-delà de ça, c'est que tu viens rapetisser ton immeuble. Ouais. Ben oui, ton immeuble potentiel. Là.
Ben c'est drôle, tu parles, c'est probablement le même ruisseau. J'ai fait un projet dans le coin de l'Ormière. C'était le ruisseau Barbe, je pense. Puis c'est là que j'ai dû implanter un bâtiment là, vraiment dans le coin du terrain pour respecter le 20 mètres là, du ruisseau. Donc là, j'ai dû travailler avec ma dessinatrice là, pour faire un bâtiment là, avec une forme là, particulière pour pouvoir implanter un bâtiment neuf. C'était un monsieur qui était incapable de vendre ce terrain-là. Ça faisait longtemps qu'il était affiché. Puis moi, j'ai réussi à le développer là, en utilisant certaines astuces. Cool. Donc,
et juste pour bien comprendre, au moment du lotissement, c'est l'arpenteur qui est capable de vérifier tout le côté possible, là, en fait. Là. C'est-à-dire, comme tu dis, toutes les marges, toutes les contraintes à respecter, c'est lui qui va te dire tu es capable d'aller de l'avant puis le subdiviser en deux portions ou toi, tu as une portion aussi?
Moi, je le vois avant.
Okay.
Tu sais, avant d'aller à...
Tu fermes tes yeux puis tu.
Avant d'aller, le ouais, c'est
non, ça. Non, mais tu sais, il y a du démarchage. Il y a du démarchage. Je viens sortir l'extrait de la matrice. Après ça, tu sais, t'es capable de mesurer, t'es capable de voir qu'est-ce qu'il y en a dessus, t'es capable déjà de.
Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il y a une demande. Comme on comprend, là, je suis un newbie, là, mais y a-t-il une demande à quelqu'un à faire ou si tu respectes les standards puis ce qui est écrit dans une charte, c'est un free pass, tu l'as. Là. Tu peux le diviser en deux ton terrain si tu respectes tout.
Tu vas
quand
même une demande de lotissement à faire.
Oui, c'est ça. Faut
mais
il n'y
a pas nécessairement de.
On est capable de le voir avant de déranger un arpenteur. Moi, je suis capable de le voir. Non, ça ne fait pas de sens.
Ah ouais,
ça ne rentre pas. Là, fait que, on ne va pas plus loin. Fait que, on est capable de le voir tout de suite ça, en regardant le zonage et les marges qu'il faut respecter. Fait que ça, c'est... Puis souvent, dans les grilles de zonage, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des mesures frontales minimum. Plus en plus, là, on voit ça à la Ville de Québec, là, ils mettent des 15 mètres minimales de mesure frontale. Donc, ça vient un peu là, nous mettre les bâtons dans les roues. Donc, on a ça aussi maintenant là, à vérifier.
Fait que là, tu fais l'eau avec l'arpenteur, tu le présentes à la Ville. Ça ressemble à quoi cette démarche-là en termes de temps, d'échéancier?
On fait faire un plan projet de lotissement avec l'arpenteur. Okay. Ensuite, ce plan projet-là va être déposé à la Ville, là, qui est à la division de l'arpentage, là, qui est dans l'arrondissement de Charlebourg là, pour ce qui est de la Ville de Québec. Ensuite, ben, il faut payer les permis de lotissement. Là. Quand on crée deux lots, c'est 136 $ par lot qu'il faut payer en plus là, des frais là, de l'arpenteur. Ensuite de ça, ben, on a les frais pour enregistrement cadastral. Là. Ça, c'est l'arpenteur qui les paie puis qui les facture après. Là. C'est pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ça, on n'y échappe pas. Ensuite, l'arpenteur, quand tout est correct, on vient faire un piquetage des nouvelles limites de l'eau. Donc là, on vient dire, bon, le nouveau lot s'arrête à ces endroits-là. Puis, quelques mois plus tard, ouais, souvent deux mois, c'est là que, tantôt tu parlais, Jeff, des taxes de parc là, ou de la taxe verte. Il ne faut pas dire taxe. C'est vraiment mal vu. Il faut dire la contribution okay. aux fins de parc. Ça, c'est plus joli. Ouais. Ça fait moins mal. T'sais.
C'est plus joli.
C'est plus joli, mais c'est ça. C'est 10 % de la valeur du nouveau lot qu'on vient créer. Donc, là,
fait que si jamais il y a deux lots, est-ce que c'est 10 % sur chacun des lots?
Non, seulement le nouveau lot qu'on a créé. Là, parce que là,
fait que, par exemple, on a une maison unifamiliale, le terrain est à 100 000. La maison est évaluée à 150 000. On vient de subdiviser les deux terrains. Le nouveau terrain est évalué à 80 000. On paye 10 % de 80 000.
C'est ça. Il faut payer un évaluateur. Là. En plus, c'est le client là, qui paie pour l'évaluation. Puis cet évaluateur-là vient déterminer la valeur de ce lot vacant-là, qui est souvent, là, si on est dans le résidentiel, c'est entre 100 000 et 150 000 là, dans la Ville de Québec. Donc, il faut prévoir 10 à 15 000 $ à payer. C'est quand même des frais importants. Puis on a 60 jours pour le faire.
Ça, c'est notre évaluateur que nous, on mandate. C'est pas la Ville qui fait cette portion-là.
Malheureusement, c'est toi qui paye, mais c'est pas toi qui choisis. C'est la Ville qui
choisit son évaluateur.
Choisit son évaluateur.
Ah, okay. Ouais, c'est, okay, c'est ma question que je me posais, on va dire off-mic, là, mais tu dois pas en fait tout présenter le potentiel du terrain à l'évaluateur pour grimper à sa pleine valeur ou lui, il va juste y aller sur des pieds carrés comparatifs?
Il va être des comparables vraiment dans le secteur comme le, peu importe l'évaluation là, que tu vas faire, là, que ce soit pour un terrain ou une maison, il regarde les comparables dans.
Mais si toi, tu as eu un œil où tu dis je suis capable de le twister puis je peux faire 2,16 au lieu de. Tu sais, si tu es capable de pousser plus loin le terrain, c'est pas là que tu vends le plein potentiel de la valeur des carrés.
En fait, cette évaluation-là, ça sert juste à te facturer des frais de parc. Là, parce qu'après ça, peut-être que le terrain vaut plus cher là, parce que t'as vu d'autres choses. Mais l'évaluateur, lui, il va vraiment souvent au pied carré, vraiment assez simple pour déterminer une valeur.
Ça devient ta valeur aux fins de taxe, j'imagine, après.
Exactement.
OK.
C'est ça. Ça, malheureusement, bon, on ne peut pas y échapper, sauf dans un cas, là, on s'en est parlé un peu avant l'émission, de désunifier des lots. C'est-à-dire qu'avant la réforme cadastrale, là, Ils ont mergé souvent des deux lots ensemble pour en créer un. En fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire non, moi, je veux revoir les anciens lots. Parce qu'ils étaient déjà lotis en deux terrains, mon terrain. Là, c'est vous qui avez décidé de faire un terrain avec. Donc, on peut faire ça. À ce moment-là, on vient sauver la contribution aux fins de parc. Là.
C'est où qu'on peut voir ça, cette ancienne.
C'est dans l'historique cadastral, dans le fond. Là, okay. Tu vas aller chercher ton acte de vente, tu vas chercher ton plan cadastral, puis par la suite, tu vas aller chercher l'acte de vente antérieur, puis là, tu vas aller revoir le plan cadastral, puis tu vas remonter dans le temps jusqu'avant.
Là, t'es où? T'es dans le registre foncier?
Oui, exact. Je suis ici au studio à CGMD. Mais oui, sur le registre foncier. On était tough, Mike?
Malheureusement, non. Donc, c'est ça. Ça, on le voit, c'est quand même rare, là, mais dans des vieux quartiers, là, on peut s'en sortir de cette façon-là. Ensuite de ça, bon, on tombe au niveau de la partie implantation du bâtiment. Maintenant, le lot il est créé. On peut implanter un bâtiment. Donc, on évoque une recherche, une analyse là, pour voir quelle grosseur de bâtiment qu'on peut faire, puis qu'est-ce que le client désire faire sur son terrain.
Puis quand ton arpenteur vient faire la levée des lieux, est-ce que tu y fais faire tout de suite la superficie construisible sur chacun des lots avec la. Parce que tu veux le travailler en amont déjà, là. Tu sais, ça va être quoi les limitations, ça va être quoi le stationnement, etc. Est-ce que tu le fais faire déjà dès la subdivision, dès l'étape de lotissement, les superficies construisibles futures?
Oui, dès le départ dans la levée des lieux, on fait ça parce que ça va être en fait plus que pertinent, ça va être nécessaire pour soit l'architecte ou le technologue en architecture pour faire tes plans de maison ou le plan de ton triplex ou le plan de ton multilogement. Donc oui, il faut vraiment tout de suite au départ le déterminer quelles sont les limites construisibles sur le terrain. Donc ensuite, on peut y aller avec le plan projet d'implantation. Donc là, c'est là que je travaille là, souvent avec j'ai souvent des technologues qui travaillent avec moi là, pour implanter des bâtiments. Fait qu'on essaie de trouver des astuces. Là, souvent, comme on disait tantôt, c'est le stationnement là, qui fait mal, là, qui est le nerf de la guerre. Fait qu'on essaie de trouver des astuces pour rentrer un bâtiment ainsi que les stationnements sur les terrains. Ensuite, ben, on a l'implantation du nouveau bâtiment. On a le permis de lotissement qui est à faire. Ça, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Non, ça, on n'en a pas parlé. Puis, pour ce qui est des frais de l'implantation, là, on est autour de 1 450 $ plus taxes au niveau des recherches puis des frais d'arpenteur là, qu'on doit faire. Puis ça, c'est nécessaire afin de faire une demande de permis. Donc, si tu veux faire une demande de permis,
c'est une obligation.
Ça prend le plan de ta maison ou ton projet, puis ça prend aussi un plan projet d'implantation.
Parfait. Puis par la suite arrive justement là, la demande de permis. Fait que là, on a eu le plan, la demande de permis de lotissement. Après ça, on a fait le plan d'implantation. Fait que là, un coup qu'on a ces deux éléments-là, ben là, on peut faire la demande de permis.
Exactement. Puis la demande de permis, on peut y aller soit en demande de renseignement préliminaire, qui coûte autour de 340 $ dans la ville de Québec, ou on y va vraiment avec la totale, qui est la vraie demande de permis là, officielle, où ce que le CCU, les urbanistes de la ville vont se pencher sur le projet. À ce moment-là, on est autour de 1 000 $ là, au niveau des frais avec la ville.
Puis entre toi et moi, là, ça vaut vraiment la peine de payer 700 $ de différence? Là.
Ben moi, c'est ce que je conseille même à des clients ou même des gens qui font du lotissement comme moi. Là. Des fois, je leur dis, non, vas-y vraiment avec une demande de permis parce que tu peux te faire avoir plus tard dans le processus. Même si techniquement, ton projet fait du sens, ben s'il ne s'intègre pas bien dans le cadre bâti, dans un milieu déjà établi, ben à ce moment-là, tu ne pourras pas le faire, ton projet, là, même si techniquement, ça faisait du sens. Donc, c'est pour ça qu'on y va toujours, nous, avec une demande de permis, à ce moment-là, on l'appelle à demander un permis, mais ça ne veut pas dire que dans 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, on va vraiment y aller avec ce qu'on a fait comme demande de permis. On peut la réajuster par après, là, puis reprendre cette demande de permis-là, c'est des ajustements à faire. Bon, moi, on a vraiment passé le processus au complet. Là.
C'est quand même cool. Puis là, mais ça, c'est les premières étapes. Arrive la demande de permis, puis arrive aussi plusieurs tests, expertises qui peuvent être demandées à différents niveaux. Tu sais, est-ce que toi, tu intègres déjà, par exemple, les tests environnementaux phase 1? Est-ce que c'est toujours demandé? Est-ce que c'est pas demandé? À quel moment que ça arrive? Ça, c'est.
Ben, dans le multilogement, oui, faut, je pense qu'on peut pas y passer à côté. Il faut absolument le faire. Il faut y aller en phase 1. T'sais, si tu fais un projet puis que l'autre côté de la rue, tu as une station-service, ben là, il faut qu'il y ait une lumière rouge qui allume puis que tu te dises, écoute, ça se peut qu'il y ait du contaminant puis à quel point il y en a dans le terrain. Est-ce que c'est seulement les sols qui sont contaminés ou est-ce que c'est les eaux souterraines qui sont contaminées? À ce moment-là, il faut y aller avec...
Oui, puis je pense que c'est à partir de 7 logements dans le financement qui vont le demander presque systématiquement.
Oui, exact. Puis tu sais, ça va dépendre beaucoup des institutions financières, là, mais je vais te dire, ça va devenir un incontournable dans quelques mois. Là, multilogement, test analyse phase 1, là, c'est sûr, sûr, sûr. Il y a aussi des fois dans différents secteurs qu'on peut avoir des demandes d'analyse de capacité portante de sol. T'sais, on veut savoir est-ce-tu de la glaise, est-ce-tu pas de la glaise, etc. Fait que, c'est quand même des tests qui sont quand même pertinents à avoir. Il y a aussi des tests géotechniques, des fois qu'on va avoir de besoin à cause d'une paroi rocheuse, à cause de les grenouilles ou peu importe la patente. Là, c'est quand même important d'avoir aussi ces différents différentes informations-là.
Les milieux humides aussi, la protection des milieux humides là, qui était de plus en plus là, exigée. Donc, de répertorier ces milieux humides-là sur le terrain, c'est très important. Si on voit ça plus la couronne nord, là, où c'est plus reculé. Là.
Puis il vient aussi peut-être des fois des demandes de dérogation parce que on va avoir un terrain de 29,4 mètres, il faut 15 mètres, il nous manque 0,6 mètres. Ben, des fois, il va falloir faire notre demande de dérogation puis de le prévoir aussi à l'avance. Puis quand on travaille en amont pour de la revente, ben tu sais, quand tu as un bon courtier immobilier, admettons que je nommerais mon équipe, l'équipe de Jean-François Morin, ben on est capable de faire une pré-vente, tu sais, une pré-amorce du projet conditionnelle à l'acceptation, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est que dès le démarchage, vous êtes déjà en mesure de pouvoir prévoir la sortie au lieu d'attendre que tout soit finalisé. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment, vraiment la peine de le travailler en mode sortie rapidement. Parce que, tu sais, l'objectif, si c'est de le garder puis de le construire, c'est une chose. Mais si l'objectif est de faire un gain financier avec ça, mais c'est important de prévoir la sortie de ça. Puis,
moi, je pense à un autre point, Jeff. Tu sais, toute la portion aqueduc puis se relier au système aussi. Tu sais, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vérifies dans la démarche avec le client?
Absolument.
Ça doit contraindre des projets sur le.
Absolument. Je me suis déjà fait dire à la ville que les tuyaux étaient dans la rue, mais finalement, c'était pas le cas. Là. Donc, c'était une erreur.
Il y a des grosseurs de tuyaux aussi ou des grosseurs d'entrée d'eau qui vont limiter.
Quand il va, mettons, avec des plus gros projets, oui, il faut voir si l'infrastructure peut le permettre ou sinon, ben là, faut prévoir tout ça. Donc, oui, c'est essentiel là, au niveau des frais de service aussi qu'il faut prévoir. Il faut creuser dans la rue. Tu n'as pas le choix de ton entrepreneur. C'est la ville qui creuse la rue. Donc,
ça, c'est dans ta demande. Je pense que c'est dans ta demande de permis qui va être.
C'est ça, exactement.
Dans le fond, le montant qu'ils vont
demander. Dans la demande de permis, il va y avoir un technicien qui va se pencher sur la question puis il va te dire combien ça coûte. Puis il faut aussi prévoir les frais hivernaux. Donc, si on creuse au mois de décembre, janvier, ben, il faut prévoir peut-être un 3 000 supplémentaires là, de creuser dans un sol gelé versus si on creuse après le 15 avril. Ben, on n'a pas les frais hivernaux. Donc, c'est des affaires des fois. Au lieu de creuser le 1er avril, ben, souvent, on voit des chantiers qui commencent plus autour du 15 avril là, pour sauver ces frais-là.
Oui, c'est ça. Puis la gestion de l'écoulement des eaux aussi. C'est cette question-là d'ingénierie à vérifier si ça contraint, mettons, l'implantation de ton bâtiment. Ça, je sais pas.
Ah, ben, définitivement. Mais tout ça va se faire avec la demande de lotissement aussi, là, parce qu'il va y avoir un relevé qui va se faire. Puis à ce moment-là, il va pouvoir déceler les différents éléments qui peuvent. Soit nuire à l'implantation future d'un projet, etc. Puis ça se fait vraiment au début. Puis tu sais, les études de bruit, des fois qu'on va se faire demander, des évaluations environnementales, on a parlé, les écosystèmes aquatiques, les milieux humides, riverains, ça fait partie de ça. Tantôt, on a parlé des parois rocheuses, des fois qu'on peut avoir. Après ça, quand on arrive dans des développements domiciliaires de tours à condos, ben tu sais, il y a des rapports d'ingénierie, des fois qu'on va avoir besoin à ce que ce soit des rapports scellés par un ingénieur, non pas juste monsieur, madame, tout le monde, ou tu sais, j'ai un avis favorable, c'est correct, on passe de l'avant. C'est très technique, fait que de s'associer avec des gens qui s'y connaissent, qui font ça régulièrement, puis qui ont une grande expertise. C'est ça que la bulle immobilière prône toujours dans ses émissions. Steve Pellerin, si jamais on va avoir des conseils où on aimerait utiliser tes services, de quelle façon qu'on est en mesure de communiquer avec toi?
Soit par la page Facebook de ESP Développement, on peut m'écrire là-dessus, puis on va être un peu plus là assidu à, pour peut-être présenter des projets qu'on va faire. Là, on le faisait pas dans le passé, mais maintenant là, on va vous présenter là, tranquillement
les success stories qu'on fait. Ouais.
Ben, juste pour éveiller aux possibilités.
Ben oui, puis les terrains qu'on a disponibles là, peut-être à l'occasion. Sinon, aussi par courriel à esp.developpement@commercial.gmail.com. Donc là-dessus, ça va super bien. Je réponds fréquemment là, à mes courriels.
Au téléphone aussi?
Au téléphone, au 418, oui, téléphone aussi. Parce que, tu sais, il faut dire que les personnes plus âgées, là, on parlait tantôt des. Souvent, c'est des vieilles maisons qui ont des grands terrains. Fait que souvent, on fait affaire à des gens qui sont plus âgés, donc qui n'ont pas accès tout à Internet ou qui ne sont pas à l'aise. Donc, 418-951-7944. Pour me rejoindre, là, pour ceux qui sont
prêts. Est-ce que tu peux répéter?
418-951-7944.
Parfait. Moi, c'est la chose que j'évite de donner mon numéro de téléphone cellulaire, mais écoute, je te trouve brave. Vous étiez à l'écoute de la bulle immobilière. Un grand merci, Steve, d'avoir partagé ton expérience, ton expertise avec nous. Merci. C'est un réel plaisir.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.